Conférence privée du noviciat par le père Philippe à Saint-Genard le 16 novembre 1988.
Il paraît que vous avez écouté les cassettes sur les vœux. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez par rapport à ce que vous avez pu écouter et que vous aimeriez qu'on puisse expliciter plus ? C'est bien, j'aurais dû vous poser cette question ce matin pour que vous puissiez réfléchir et mettre dans la boîte post-restante. Parce que c'est bon que quelquefois ça vienne de vous. Est-ce qu'on va recommencer un cycle de conférences pour le noviciat toutes les semaines ? Dans l'intimité, et comme c'est plus directement pour vous, et que c'est quelque chose de particulier, ça nous prend dans notre vie, le point de vue métaphysique, il y a tout un aspect qu'on doit développer pour découvrir ce que représente cette connaissance particulière, au sommet de toutes les connaissances. Tandis qu'ici, c'est beaucoup plus notre vie. Alors, n'hésitez jamais quand il s'agit de ces petites causeries pour le noviciat de dire tel sujet, j'aimerais bien qu'on puisse le faire. Ça ne veut pas dire que nécessairement je le ferai. Et s'il y a ces sujets qui me semblent bien pour vous et pour tous, il ne faut pas hésiter de le faire. Nous allons fêter bientôt le 21 novembre, cette année-ci, grâce à la convalescence, je peux dire à Paris que je ne suis pas encore capable de faire une conférence. Alors, je resterai pour vous, parce que normalement, je devais être à Paris. Et on parlera du mystère de la présentation qui doit nous être très cher. Marthe disait souvent, du moins, elle me disait, qu'il fallait reprendre tout le mystère de nos voeux à travers le mystère de la présentation de Marie. Et je crois que c'est très vrai. Vous voyez, c'est un petit signe qu'on arrive au terme. Le terme revient au point de départ. L'alpha et l'oméga se tiennent dans le gouvernement de l'Église. Et il est sûr que le mystère de la vie religieuse, de la vie religieuse contemplative, puisque la vie religieuse demande d'être contemplative, que le mystère de la vie religieuse contemplative a commencé dans le cœur de Marie. Et l'Église a toujours considéré que le mystère de la présentation de Marie, c'était le point de départ, la source. Une source cachée, réelle, non historique, au sens exégétique. C'est quelque chose de caché et de profondément caché, mais qui est très proche de nous, comme tout le mystère de Marie. Cette présence de Marie en nous est quelque chose d'infiniment grand, on en parlera sûrement, et tout ce que Marie a vécu touche ce qu'il y a de plus profond dans notre cœur. C'est pour ça que c'est jamais quelque chose d'extérieur, ce qu'une mère vit, n'est jamais extérieur à ses enfants. Et tout le mystère de Marie, nous devons le considérer comme étant notre mystère. Le mystère que Dieu veut que nous vivions, chacun d'entre nous, d'une manière particulière, spéciale, inédite. Et il faut que nous vivions ce mystère de la présentation de Marie, comme une exigence d'un renouveau total de toute notre vie religieuse. Ça, c'est tellement important pour nous. C'est pour ça qu'il faut s'y préparer. Il faut demander cette grâce de tout reprendre dans la lumière profonde du mystère de Marie. Marie s'est consacrée à Dieu, non pas d'une manière juridique. Il n'y a pas eu de témoin. Vous comprenez bien qu'elle ne pouvait pas faire cette consécration devant le grand prêtre. Vous n'avez pas compris. Ça aurait été impossible. Elle n'a pu le faire que d'une manière tout intérieure. C'est Albert le Grand qui dit ça. Albert le Grand a étudié beaucoup ce mystère de la présentation de Marie au temple. Et Albert le Grand souligne que c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en elle. Don de sagesse, don de crainte. Et comme elle n'a pas pu demander conseil à quelqu'un, au grand prêtre, au lévite, elle n'a pas pu demander conseil à ses parents. C'est sous l'influence directe de l'Esprit Saint qu'elle a demandé ça. Mais sous la mouvance du don de crainte, si tel est le bon plaisir de Dieu, don de crainte et don de conseil, si tel est le bon plaisir de Dieu, je me consacre entièrement à Dieu. Vœu de virginité. Marie ne pouvait pas savoir ce que Dieu lui réservait. Elle pouvait deviner qu'il fallait se donner totalement à Dieu, mais elle ne pouvait pas savoir où exactement. C'est toujours très important, ça, vous voyez, quand on se met à douter, est-ce que je suis bien dans la communauté Saint-Jean, est-ce que c'est bien fait pour moi? Ça peut arriver, ça. Au terme du noviciat, quand on commence à trouver que c'est un petit peu difficile, peu dur. Alors est-ce que c'est bien fait pour moi? Il ne faut surtout pas se mettre à douter indéfiniment. C'est très très mauvais. Le doute ne donne pas la solution du doute. Il faut sortir du doute pour donner la solution du doute. Et pour nous, c'est très simple. C'est revenir à la source de toute la vie religieuse. Et la source de toute la vie religieuse, c'est Marie qui se donne, et qui se donne totalement, qui se donne entièrement, corps et âme. C'est Marie qui se voue à Dieu. Et quand on revient alors à la source, ne se pose pas le problème des modalités. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que c'est Saint Jean? Ou est-ce que c'est la compagnie de Jésus? Ou est-ce que c'est l'Opus Dei? Je me suis trompé, est-ce que je me suis trompé? Ou est-ce que c'est Bethléem? On peut se poser des questions, c'est normal. Mais encore une fois, quand on commence à douter, il faut toujours revenir au cœur de Marie et se consacrer comme elle s'est consacrée à Dieu. Vous voyez, la modalité, savoir qu'on doit se donner dans telle ou telle forme de vie religieuse, telle ou telle forme de vie monastique, c'est secondaire. Ce qui est premier, c'est le don absolu de nous-mêmes à Dieu. Et c'est ça qui donne la seule solution de supprimer les doutes. C'est de se donner totalement. On sait, Saint Thomas nous le dit, Dieu enverra un ange si nous sommes totalement donné à Dieu. Il enverra un ange pour nous indiquer où on doit aller. Il nous donnera un signe pour nous indiquer où on doit aller. Et c'est pas la question principale de savoir où on doit aller. La question principale, c'est de se donner. Et ça, c'est très très... Et c'est ça que nous apprend Marie. Oui, ça, c'est un enseignement maternel. Et il faut le comprendre, et il faut le vivre, ça. Parce que si on ne le comprend pas et qu'on ne le vit pas, on restera très longtemps dans une zone en disant « je ne peux pas me donner complètement parce que je ne suis pas absolument sûr que c'est fait pour moi. » Je ne suis pas absolument sûr. Alors on vit un noviciat complètement à côté. Parce que si on ne se donne pas totalement, on ne peut pas vivre selon le souffle de l'Esprit-Saint. Vous voyez l'astuce du démon. L'astuce du démon, c'est de nous dire « ah, je ne suis pas absolument sûr, est-ce que c'est bien ça ?» Alors on reste un petit peu en dehors et puis on critique. Si on est totalement donné, on ne critique pas. On ne peut pas critiquer. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais ça n'a pas d'importance après tout. On ne comprend pas. Il y a toujours suffisamment de choses qu'on comprend. C'est vrai, ça. Dans notre vie religieuse, il y a suffisamment de choses qu'on comprend. Alors, s'il y a suffisamment de choses qu'on comprend, ça nous permet de nous donner totalement. Et Dieu ne nous éclaire que s'il y a ce don total, absolu. Oui, pour nous, c'est facile. Puisque nous sommes consacrés à Saint Jean, c'est difficile d'aller plus loin. Difficile, hein? Marie et Jean. Donc si vous vous consacrez totalement avec Marie, vous comprenez que Jean l'a fait. Donc vous demandez à Jean de le faire. C'est facile. La question peut se poser, est-ce que la congrégation Saint-Jean, telle que je la vis maintenant, est-ce que c'est fait pour moi? Ça, c'est autre chose. Oui, on ne critique pas. On se demande par rapport à soi. Les critiques sont toujours personnelles. Quelqu'un qui critique universellement, c'est toujours à côté. La critique est toujours personnelle. Elle est toujours... Les affirmations peuvent être universelles. Mais la critique, non. Pour moi, ça ne va pas. Ah oui, pour moi. Pour moi, ça ne correspond pas. Donc, préparons-nous à cette fête du 21 de cette manière-là. C'est très important. Vous voyez, il faut toujours, dans notre vie, comprendre que c'est un don absolu que Dieu réclame de nous. C'est preuve de la vie religieuse. C'est de nous conduire à un don absolu. Et dès qu'on commence à douter, on est perdu. C'est ce don absolu qu'on doit faire. Et le noviciat, c'est nous apprendre ce don absolu. Il n'y a pas d'autre raison. Oui. Arrêter toutes les petites imaginations qui souvent nous empêchent, qui souvent nous arrêtent. Dépasser tout cela et découvrir le cœur de Jésus. Découvrir le cœur de Marie. Découvrir le cœur de Saint Jean. On ne peut se donner d'une manière absolue qu'à Jésus, qu'à Marie. Et qu'à Saint Jean, dans la mesure où il se donne à Marie. Et c'est ce que nous devons faire, ça. Arriver à cette limpidité. Si on arrive à cela, il n'y a plus de danger. On ne marchera jamais en dehors de ça. On ne pourra pas retourner en arrière. On comprendra qu'on s'est donné. Pour l'éternité, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se met à douter, quelquefois c'est rien du tout, on doute, c'est rien. Puis le doute augmente. Et le doute augmentant, petit à petit, on se met sur une voie de garage. On dit, c'est pas fait pour moi. Il y a un jour, vous avez été fait pour vous. Puisque vous êtes entré. Puisque vous avez à ce moment-là tout donné. Alors il faut rester dans cette lumière-là. Je crois que c'est une des choses qu'on doit demander à la Très Sainte Vierge, ça. Très fortement. Écarter tous les doutes. Ne jamais y demeurer. En sachant que c'est le démon. Le démon est le père du doute. Quand on a réfléchi suffisamment sur ce que c'est que le don à Jésus et que on est entré à Saint Jean parce que Il nous a semblé que c'était bien. On a suivi certains conseils. On est entré dans l'obéissance. C'est toujours dans l'obéissance qu'on doit entrer. L'obéissance à un prêtre, l'obéissance profondément à l'Esprit Saint, l'obéissance à Marie. Donc c'est dans l'obéissance. Si vous êtes là, c'est dans l'obéissance. Vous n'avez peut-être pas très bien découvert encore, mais vous découvrirez que c'est l'obéissance. Et c'est très bon. Et on doit de temps en temps le demander à ceux qui exercent sur nous l'autorité. C'est bien dans l'obéissance que je suis ici. Et si on vous dit oui, alors ça vous stabilise. De façon étonnante. Ça vous donne une force très très grande, ça. Qui fait que vous ne mettez plus en doute, puisque c'est l'obéissance. Vous voyez, ça, il faut le demander à ceux qui exercent l'autorité sur nous, l'autorité intérieure, l'autorité spirituelle. Ou on l'a demandé avant à un directeur de conscience qu'on avait, et qui nous a dit, oui, c'est bien là. Très bien. Et puis à l'intérieur, quand on a des petits doutes, tout de suite s'en ouvrir au Père Maître, au prieur, ou à moi-même, tout de suite s'en ouvrir, et demander. C'est bien dans l'obéissance que je suis là. Autrement, les doutes augmentent. Il y a quelque chose qui ne se fait plus. L'action de l'Esprit Saint ne peut plus être aussi limpide. Il y a un petit marécage. Les doutes, c'est le marécage. Alors, on reparlera sur le mystère de la présentation de Marie, le jour de la présentation. Il y a une grâce particulière pour ça. Mais aujourd'hui, comprenez que Marie, quand on s'est donné à elle, on se donne à elle tous les jours, hein, puisqu'on récite la consécration. Je se donne à elle tous les jours dans la communauté, puisque la consécration est à la fois personnelle et communautaire, exprès. Et on demande à Marie d'être pour nous garant de ce don total qu'on a fait, et ce don total qu'on veut faire, dans lequel on veut demeurer pour l'éternité. La première chose que Marie nous demande, la première chose qui commande toute la consécration de nos vœux, c'est cette exigence de contemplation, ce primat de la contemplation. Je disais ça l'autre jour, à Rimont, pour la récollection de nos Saint-Joseph. Si on comprend un tout petit peu la grâce de Saint-Jean, c'est premièrement une grâce de contemplation. Ça, c'est sûr. Saint-Jean, dans toute la tradition, a été regardé comme le contemplatif, le disciple bien-aimé, qui repose sur le cœur de Jésus. Disciple bien-aimé dans cette prédilection de Jésus sur lui. Prédilection d'amour. Nous sommes tous, parce que nous sommes dans la vie religieuse, nous sommes tous des disciples bien-aimés parce qu'on est dans la vie religieuse. Celle-ci. Si l'Esprit Saint nous a conduits à la vie religieuse, c'est vraiment pour nous faire comprendre que nous sommes des disciples bien-aimés. Et que nous devons, par notre vie religieuse, le montrer. Ne pas avoir peur. On est évidemment tout à fait indigne. Personne d'entre nous n'est digne de la vie religieuse. Tout à fait indigne d'être des disciples bien-aimés. Mais nous le sommes. Et la vie religieuse, c'est le sceau divin sur nous. Oui, c'est pas un sacrement, c'est plus. C'est plus qu'un sacrement. Se donner à Dieu dans la vie religieuse, c'est plus qu'un sacrement. C'est ce qui finalise tous les sacrements. Tous les sacrements sont ordonnés à la vie religieuse. Sauf le mariage. Mais même le mariage est ordonné à la vie religieuse. Il faut souvent le dire. que les parents prient pour qu'ils aient des enfants qui se donnent à Dieu. Je me souviens, ma mère m'a toujours raconté ça, qu'elle hésitait d'entrer dans la vie religieuse. Son directeur, qui était un dominicain, c'est pas étonnant, son frère était entré, le père Duhaut. Était entré dans la vie religieuse, le père Duhaut était son parrain, alors, parrain de baptême. Et son directeur de conscience lui a dit, je crois que vous devez vous marier, mais demandez que le sacrement de mariage pour vous puisse réaliser tous ses effets. Et le sacrement de mariage réalisant tous ses effets fait que c'est que vous puissiez avoir dans vos enfants celles qui se consacrent à Dieu et ceux qui se consacrent à Dieu. C'est impliqué dans la grâce du mariage. Ça, il faut le rappeler quand vous bénirez des mariages ou quand vous priez pour telle ou telle vocation, vous priez pour que la grâce du sacrement de mariage aille jusqu'au bout de ses exigences. C'est très beau du reste. Tous les sacrements sont en vue de l'alliance de l'époux et de l'épouse. C'est bien évident. Et l'alliance de l'époux et de l'épouse implique les vœux. Vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout de l'alliance de l'époux et de l'épouse sans impliquer les vœux. Parce que cette alliance de l'époux et de l'épouse, elle nous est donnée par l'Église. C'est sûr. C'est Jésus qui nous a choisi le premier. Et c'est l'Église qui a répondu pour nous. Il ne faut pas croire que c'est nous qui avons répondu le premier. Nous avons été portés par l'Église, portés par Marie. Marie a répondu avant nous. Elle dit, ce petit, cette petite, oh, elle doit se consacrer totalement. Et Marie nous a offert avant qu'on s'offre. Ça, c'est sûr. Et donc, elle-même se consacrant à Dieu, elle sait très bien que c'est par la consécration de tout notre être. Et je dis bien la consécration de tout notre être. Quand il n'y a pas les vœux, il n'y a pas la consécration totale. Et la fine pointe de l'âme, mais pas la consécration totale. Tous les pères de l'Église le disent, Saint Grégoire le dit, de façon très forte. Vous voyez, on dit consécration des vierges. C'est très beau la consécration des vierges dans l'Église. Mais quand il n'y a que la consécration des vierges, l'obéissance, la pauvreté, c'est très difficile de vivre la consécration des vierges s'il n'y a pas l'obéissance et la pauvreté. Très très difficile, c'est quasi impossible. Il peut y avoir des cas très exceptionnels. Des cas très exceptionnels parce que on ne peut pas mener la vie religieuse. Vous voyez ? Enfin, je crois qu'on peut prendre le même principe que saint Thomas donne pour les sacrements. Saint Thomas dit, quand on ne peut pas recevoir l'Eucharistie en raison de maladie ou en raison d'infirmité ou en raison de circonstances qu'on a fait qu'on n'a pas pu. La communion de désir nous donne les mêmes grâces que la communion sacramentelle. Il ne faut jamais l'oublier ça. Il faut le dire à des personnes qu'on connaît qui ne peuvent pas recevoir l'Eucharistie. Il faut que tous les jours, il y ait une communion de désir, la communion spirituelle. Si on ne peut pas, parce que ce serait trop, trop facile de dire, oh, j'entends dire ça, mais maintenant je ne vais plus à l'église, c'est plus la peine, je fais en raison, et puis je reçois, j'ai toutes les grâces de l'Eucharistie, toutes les grâces du sacrement. Non, il faut avoir le désir efficace de recevoir le sacrement. Mais si on ne peut pas, alors la soif de communier par le désir nous donne toutes les mêmes grâces. Je crois qu'on peut dire la même chose, voyez. Quelqu'un qui veut se consacrer totalement à Dieu, mais qui ne peut pas entrer dans la vie religieuse, telle ou telle raison. Un vieux père, ou une vieille mère, qu'on ne peut pas laisser seul. Ça peut arriver, ça. On est le dernier. On est la dernière. Surtout pour les filles, ça. Les garçons, c'est pas toujours très, très, très drôle pour le grand-père de rester avec un vieux garçon qui ne sait rien du tout à, aux soins qui pourraient l'aider, puis qui est maladroit, et puis qui... On voit très bien, hein. Donc quelquefois, il aime mieux. Hein. Va au couvent, tu prieras pour moi. C'est beaucoup mieux que de rester avec moi, parce qu'on ne se chipotera tous les jours. Et ça peut se faire, vous voyez. Charge de famille. Selon le droit canon, si on a une charge de famille, on ne peut pas entrer dans la vie religieuse. Et puis, ou bien la santé, on est dans la capacité de mener une vie religieuse. Ça peut arriver. À ce moment-là, le désir de la vie religieuse nous est donné. Et toutes les grâces de la vie religieuse nous sont données. Et donc, à ce moment-là, la consécration virginale de quelqu'un qui reste dans le monde peut être aussi grande que si on entrait en vie religieuse. Mais il faut avoir vraiment, je dirais, tout fait pour la vie religieuse. Je dis ça parce que aujourd'hui, il y a facilement une désaffection de la vie religieuse. C'est au fond aussi grand. Objectivement, non. On doit le maintenir. Marie nous le demande. Parce qu'on doit suivre Marie. Et Marie s'est consacrée totalement à Dieu. Elle nous demande de nous consacrer totalement à Dieu. Et donc, ce n'est pas la même chose. Et on ne peut pas considérer que c'est la même chose. Se consacrer totalement à Dieu, de toute façon, vœu privé, c'est très bien, c'est très beau. Mais on n'a pas fait des vœux. Parce que le vœu d'obéissance, ça vous coûte. Hein? C'est bien évident. Ça vous coûte. On a la tête coupée. C'est pas drôle. Pas faire ce qu'on veut. Pas organiser sa vie comme on le veut. La vie est organisée par quelqu'un de bien moins intelligent que nous. Ce qu'on considérera toujours que ses supérieurs sont bien moins intelligents que nous. C'est bien évident. Parce qu'en tout cas, il ne serait pas supérieur. Donc, c'est sûr. C'est accepter que quelqu'un de moins intelligent organise notre vie. Remettre notre intelligence pratique entre les mains d'un supérieur. Notre intelligence spéculative, on la remet dans les mains de Dieu. Et que dans le cœur du Christ. Mais notre intelligence pratique, on la remet dans les mains d'hommes. Puisque Jésus a voulu qu'il soit des hommes qui aient le gouvernement. Et des femmes qui aient le gouvernement. Dieu l'a voulu, qui était cause seconde. C'est pas gros, là, de remettre son intelligence pratique entre les mains de quelqu'un qui n'est pas infaillible. Qui peut très bien ne pas nous comprendre. L'obéissance, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Hein. Vous ne l'avez peut-être pas encore senti, mais vous le sentirez. C'est ce qu'il y a de plus difficile, parce que c'est le don le plus spirituel, comme dit saint Thomas. C'est le don le plus intérieur. Il faut remettre notre intellect pratique et obéir. Et l'accepter. Accepter l'imperium, le commandement de quelqu'un d'autre, qu'on considère comme l'envoyé du Christ pour nous. C'est pas un homme qu'on obéit, c'est pas une femme qu'on obéit. On obéit à Dieu par l'intermédiaire de l'Église. C'est pour ça que l'Église reconnaît officiellement tel institut religieux, telle congrégation. Et en reconnaissant ça, l'Église nous dit qu'elle accepte le mandat de l'autorité des supérieurs C'est ça que c'est pas du tout quelque chose de secondaire de savoir que c'est approuvé par l'Église. C'est essentiel par rapport à l'autorité. C'est que on sait qu'en obéissant au supérieur religieux, on obéit à Dieu. On obéit à Jésus. Jésus l'aurait peut-être dit autrement. Vous savez ce qu'on dit au point de vue de l'exégèse, que les paroles de Jésus sont peut-être dites autrement. Mais on se trompe à l'égard de l'enseignement et du point de vue pratique. C'est très curieux. Parce que je ne crois pas que les paroles du Christ sont dites autrement. Vous croyez que Marie a gardé autrement les paroles de Jésus? Je ne crois pas. Et vous croyez que Jean a gardé autrement les paroles de Jésus? Je ne crois pas. Le contexte est différent. Et je crois que les paroles sont gardées de façon parfaite. Ce sont des Galiléens, il ne faut pas l'oublier. Donc ils ont une mémoire très fraîche. Nous sommes des êtres trop civilisés. Alors on n'a plus de mémoire. On dit tant pis, on retient le sens. Puis on change. On fait toujours ça, l'herméneutique. Alors que de fait, les gens... Envie du tout, moi, quand j'écoutais Marthe, de changer les paroles de Marthe. Pas du tout. A fortiori quand il s'agit de Jésus. A fortiori quand il s'agit de Marie. Mais dans l'ordre pratique, c'est vrai. L'aide de Dieu est uniquement pour finaliser, purifier l'intention, mais... dire de telle ou telle manière. Vous voyez, je vous donne un exemple. Un supérieur est fatigué. Il est de mauvaise humeur. Il est en colère. Ça arrive, hein ? Vous n'allez pas dire que tous les supérieurs sont toujours d'une gentillesse extraordinaire. Ils ont tout le temps pour vous. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Ah, ils sont les envoyés de Dieu. Ils sont les envoyés de Dieu pour moi. Donc il devrait être comme Dieu. Donc d'une gentillesse, d'une tendresse merveilleuse. Ah non. Dieu leur laisse leur fatigue, leurs défauts. Il y a des supérieurs qui sont très irascibles, très vite en colère. Alors fais attention, pas rester trop longtemps. Parce que quelques minutes, ça va, mais... d'un certain temps, ça ne va plus. Vous voyez, la grâce de Dieu, c'est pour la finalité de l'obéissance. Et la modalité, non. La modalité est différente. Tandis que quand on est instrument de Dieu, pour la parole de Dieu, c'est différent. La parole de Dieu est donnée pleinement. Vous voyez, l'obéissance, c'est obéir à Dieu. Il s'agit de la prudence, donc de notre intelligence pratique. Et très souvent, c'est ce qu'a décidé notre intelligence pratique dans la prudence que nous aimons le plus. Notre petite personnalité psychologique très facilement se loge, non pas dans les grands principes métaphysiques, mais se loge dans nos petites décisions. J'ai décidé que je ferai ceci. Je vais un peu mieux, je peux travailler un peu plus ce soir. Alors je demande de pouvoir me coucher quand même un peu plus tard. Je demande ça au Père Maître. Le Père Maître est fatigué. Non, il faut vous coucher tôt. Oh, vous aviez-vous décidé, en priant, qu'il fallait se coucher un peu plus tard? C'est pas commode à recevoir. On a envie de dire, mon père, parce que vous êtes fatigué, alors vous projetez sur moi votre fatigue. faire ça, surtout pas. Hein. Parce que vous n'en savez rien, d'abord. Et vous acceptez. Et c'est dur. Parce que c'est des petites choses comme ça, sur lesquelles, de fait, on tient beaucoup. C'est comme la pauvreté, vous savez. On a renoncé à l'héritage du grand-père, ou de l'oncle très riche. Pouf, c'est pas terrible quand on a 20 ans, quand on a 40 ans, c'est déjà un peu plus. Parce que c'est l'âge politique, alors on commence à comprendre que l'héritage d'un oncle, hein, riche, pff, intéressant. Quand on a 20 ans, on s'en fiche pas mal. Et quelquefois, la pauvreté, on est pauvre vis-à-vis des choses importantes et vis-à-vis de choses très secondaires. On raconte toujours cette histoire qui était, sitôt la guerre, le cardinal de Lyon avait fait un appel à tous les Lyonnais qui avaient quand même un peu d'argent, assez riche. Il leur avait demandé pour le séminaire, il faut repartir, il n'y en a plus rien. Alors faites un effort. Alors, ces messieurs soyeux de Lyon a dit, il faut quand même faire un effort. Alors il a cherché tout ce qu'il pouvait reprendre dans les fonds de tiroir. Il avait une bonne, belle petite somme, un petit billet, et en gros billet, surtout. Il a mis ça dans une petite boîte qu'il aimait, puis il a porté ça, disant, je vous donne ça, je crois que je peux le faire, il vous l'avait demandé, puis il est parti. Au bout de 8 jours, il est revenu à l'évêché, disant, vous apportez telle somme, si vous vous souvenez, j'ai mis dans une boîte, je voudrais retrouver la boîte. Mais c'est très très significatif ça. Vous voyez la pauvreté. On reste attaché à une bêtise, une vieille boîte, de vieux chaussons. Si on commence à être vieux garçon, telle ou telle chose particulière. Et on va s'attacher à ça. C'est curieux, ça, c'est très très curieux. La pauvreté, il faut que tout soit donné. Et que tout soit donné régulièrement. Oui, il faut que le père maître puisse entrer en cellule et puis avoir un grand panier à côté, ça, vous avez encore ça? Oh! Pour le bien commun. Pour le bien commun. Alors on sait très bien quand c'est pour le bien commun, on le reverra jamais. Il faut que le père maître puisse faire la visite des cellules. Il faut que le prieur puisse faire la visite des cellules, normalement. Ça se faisait dans le temps. J'ai connu ça. C'est très bien. Parce qu'on est très mauvais juge vis-à-vis de la pauvreté. Il faut qu'on puisse être des pauvres, vraiment, du Seigneur. Alors la pauvreté est avant tout intérieure, c'est sûr. Mais elle doit se concrétiser. Il faut être pauvre dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Et si l'obéissance vous réclame que vous ayez tel ou tel instrument que vous considérez comme des instruments de luxe, ça n'a pas d'importance, vous vous en servez. L'obéissance va plus loin que la pauvreté. Oui.
Pourquoi la visite ne se fait plus?
Pourquoi?
La visite
de la
cellule.
Il demande pourquoi la visite en cellule ne se fait plus.
Ah, oui, pourquoi la visite? Oh, elle devrait se faire, elle se fera peut-être. Vous me donnez une très bonne idée. Vous voyez, je crois que c'est excellent ça.
Le 21, je bénirai toutes les cellules. Alors, je m'attarderai peut-être un peu. Avec le Père Maître. Qui au Père Maître de prendre un grand panier. Priez bien pour que la Sainte Vierge inspire. Et Saint Joseph. Parce que c'était peut-être Saint Joseph qui avait le grand panier pour ramasser tout. C'est bon, vous voyez. Ça allège d'être pauvre. Alors on doit agir très simplement. Dire, j'ai besoin de cet instrument de travail. C'est un instrument de travail. Un livre. Saint Thomas. On ne vous l'enlevera pas, vous savez. La Bible. On ne vous l'enlevera pas. Parce que, instrument de travail. Tel livre de saint. La vie de Sainte Thérèse par elle-même. C'est très important, ça. De relire ça de temps en temps. Alors, on va peut-être avoir ça à demeure. La petite Thérèse. C'est une âme. Vous voyez, la pauvreté doit être très souple. C'est pas dire « je n'ai rien, rien, rien ». Non, 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 c'est pas ça. C'est un esprit. Si vous avez ça et puis qu'en même temps, vous êtes rongé de désir d'avoir des quantités de choses que le voisin a. Alors c'est pas du tout la pauvreté. La pauvreté est intérieure. L'obéissance est intérieure. La virginité d'intérieur. Mais grâce à la vie religieuse, l'obéissance s'incarne. La pauvreté s'incarne. La virginité s'incarne. Beaucoup plus que si on était seul dans le monde. Et c'est dans ce sens-là que les vœux ont quelque chose de si grand. C'est une miséricorde de Dieu pour nous. Parce que nous sommes faibles. On aurait un bon mouvement de se consacrer à Dieu en disant, je veux totalement consacrer à Dieu dans le monde. Rester seul dans le monde. Oui. Et n'oubliez pas que ce très bon mouvement, quand vous aurez 45 ans, pourra se ralentir. Et instinctivement, il y a les rapines. On reprend. Tandis que dans la vie religieuse, justement, on reprend aussi quelquefois, mais c'est plus facile de revenir comme un novice. C'est plus facile. Parce que les vœux nous prennent entièrement. C'est pour ça que c'est un don de Dieu. Ce qui est premier dans notre vie religieuse, c'est de maintenir cet esprit de virginité. C'est la chose la plus précieuse. C'est pas la chose la plus difficile. C'est la chose la plus précieuse, au point de vue finalité. Parce que c'est notre cœur qui veut aimer, et aimer de façon absolue. Ce qui est le plus difficile, ordinairement, surtout pour des hommes, mais pour des femmes indépendantes aussi. Comme aujourd'hui, toutes les femmes sont indépendantes, c'est aussi très difficile pour les femmes. C'est l'obéissance. C'est du reste pour ça qu'il y a moins de vocation. Ça, j'en suis sûr. Et c'est pour ça que l'Église, dans sa miséricorde, accepte des instituts séculiers. Parce que c'est très difficile d'obéir. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Et la pauvreté est entre les deux. Or, l'esprit de virginité ne peut demeurer en nous que si nous avons soif d'oraison, si nous avons soif de contemplation. Autrement, c'est impossible. Là aussi, c'est saint Thomas qui le dit. Les œuvres ne suffisent pas pour maintenir en nous un esprit de virginité. Il ne faut pas dire, comme certains l'ont dit, si je me donne à la vie religieuse, c'est pour être capable d'aimer les autres. Pas du tout, c'est pas ça. On se donne à Dieu. Et l'esprit de virginité, c'est premièrement à l'égard de Dieu. veut que notre cœur n'aime que Jésus. L'alliance de l'époux et de l'épouse. Que notre cœur soit sensibilisé à Jésus. À travers toute notre sensibilité. À travers toute notre imagination. À travers tout notre corps. On est donné. On est donné à Jésus. Pour n'être qu'à lui. Pour être la part, comme on dit, de Jésus. Pour lui appartenir. C'est très grand, vous voyez. Mais il faut comprendre que cet esprit de virginité ne peut être vécu que par une soif de contemplation et d'oraison. Chaque fois que l'esprit d'oraison diminue, que la soif de contemplation diminue, il y a quelque chose dans notre âme spirituelle, dans notre cœur, par rapport à l'esprit de virginité, qui est moins fort. Alors que, lorsque vous avez une vraie soif de la contemplation, et que vous êtes très fidèle à l'oraison. Fidélité pas seulement matérielle, hein. Fidélité vécue. C'est-à-dire que vous faites tout pour vivre de ce temps d'oraison pleinement et totalement. Pas seulement là matériellement en disant « tant pis, hein. Si je m'endors, ça n'a pas d'importance, ça passera plus vite. Bon. » Vous voyez, quand vous êtes très fatigué, qu'on est un peu tenté, on sait s'aller. Non, on lutte. Si l'Esprit Saint est là, c'est très facile. Mais si on n'a pas beaucoup de grâce sensible, pas beaucoup d'expérience intérieure, on est dans la foi toute nue, à ce moment-là, il faut lutter. Il faut faire des actes d'adoration, il faut faire des actes d'amour, il faut faire des actes de foi. Il faut dire à Marie que nous voulons qu'elle soit là, on lutte. On maintient le désir de l'oraison dans la lutte. On maintient le désir de la contemplation dans la lutte. Vous voyez, ce ne sont pas les résultats qui font de nous une âme contemplative. C'est la soif de la contemplation. C'est ça qui est l'essentiel. Les résultats, ça n'a pas d'importance. Ça nous aide beaucoup psychologiquement, mais ça n'a pas beaucoup d'importance pour Dieu. Mais le dernier enseignement du Christ, j'ai soif. Et c'est donné à Jean. Et Jean est le seul à recevoir ça avec Marie. J'ai soif. C'est donné à toute âme qui veut la contemplation, à toute âme qui désire vivre de l'oraison. Le j'ai soif. Et c'est ça qui nous donne une âme contemplative, une âme d'oraison. C'est dans la mesure même où nous avons soif. Soif de la contemplation. Alors qu'est-ce que c'est que cette contemplation? Qu'est-ce que c'est que l'oraison? La contemplation, saint Thomas dit, c'est un regard amoureux à l'égard d'une personne. C'est un regard amoureux, c'est dans l'amour qu'on regarde, qu'on est présent. Et on ne contemple qu'une personne. La contemplation d'une œuvre d'art est une contemplation mineure. C'est peut-être, il peut avoir un mode contemplatif, mais ce n'est pas la vraie contemplation. La vraie contemplation est à l'intérieur de l'amour à l'égard d'une personne. Une personne que nous considérons comme notre bien. Pour nous, c'est Dieu. Et dans l'ordre surnaturel, c'est celui qui tient la place du Père à la croix. C'est Jésus. Jésus crucifié, qui est notre sagesse. Et c'est c'est Jésus crucifié qui est notre sagesse et qui nous attire vers lui, qui nous prend. La contemplation, c'est donc ce regard sur Jésus, sur le cœur blessé de Jésus. C'est un regard d'amour très intense qui nous fait sortir de nous pour être tout entier, tourné, ordonné à la personne qu'on aime. Dans l'ordre surnaturel, vous voyez, c'est un regard de foi qui permet à l'amour de s'épanouir et qui nous permet de vivre dans l'unité avec Jésus.